RCF.
Dis-moi ce que tu bois, je te dirai qui tu es. C'est par ces mots que vous commencez votre livre Le goût de l'ivresse, boire en France depuis le Moyen-Âge. Mathieu Lecoutre, bonjour.
Bonjour.
L'eau, le vin, la bière, le lait ou le cidre, les apéritifs, les digestifs, les boissons sucrées ou venues d'ailleurs. Vous retracez dans ce livre passionnant l'histoire de la boisson à travers les époques. Et nous allons voir avec vous que ce que l'on boit éclaire d'une manière toute particulière les contextes politiques, religieux, économiques et sociaux entre autres. Vous êtes historien, chercheur associé à l'équipe alimentation de Tours François Rabelais, ainsi qu'au centre Chevrier de l'université de Bourgogne, savoir, normes et sensibilité. Je viens de dire que ce que l'on boit en dit long sur l'époque que l'on vit et sur les mœurs. C'est cette manière d'aborder les choses qui vous intéresse dans ce type de travail très transversal?
Oui. Enfin, moi, je me définis plutôt comme un historien du culturel. Toutes les manières de penser, de vivre, de consommer, les symboles qui sont associés à ces aliments m'intéressent particulièrement. C'est pour ça que, sous forme de boutade, en fait, j'ai repris cette sentence connue de Brillat Savarin et je l'ai détournée. Donc lui, effectivement, il explique « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Moi, je trouvais que c'était peut-être intéressant de questionner la boisson sur une longue histoire de France.
Vous dites que on boit finalement moins de vin qu'on ne pourrait l'imaginer dans l'Antiquité. Sur quoi repose cette croyance qu'on buvait beaucoup de vin, notamment à Rome?
En fait, ça repose avant tout sur une historiographie classique de l'histoire romaine, de l'histoire gallo-romaine. Pendant longtemps, on a pensé que le vin était véritablement la boisson essentiellement consommée en Gaule. C'est une boisson fondamentale, c'est évident, mais les archéologues actuellement sont en train de montrer que on consommait aussi beaucoup de bière d'une manière relativement bien répartie à l'échelle de la Gaule. Alors en termes de sources, j'ai repris essentiellement les conclusions de mes collègues antiquisants et j'ai essayé d'analyser les manières de consommer. Les sources qui sont disponibles sont des sources littéraires, des sources archéologiques qui permettent de renouveler, de mettre en perspective les conclusions qui utilisent souvent la boisson pour valoriser un groupe ou pour en dénigrer un autre.
Un autre. Qu'est-ce qui valorise un groupe alors, dans l'Antiquité ou au début du Moyen-Âge?
Je pense que l'ethnocentrisme, c'est une clé de lecture. C'est-à-dire qu'on analyse la situation par rapport à ses propres représentations. Et les Romains analysaient souvent les manières de boire à l'aune de leur propre consommation et du vin. Évidemment, les historiens ont repris cette vision, hein, ont dénigré la manière de boire des gallo-romains en accusant ces gallo-romains de barbarie, de germanité un peu trop excessive.
C'est-à-dire que les Gaulois, eux, buvaient plutôt de la cervoise ou de la bière?
Les Gaulois, évidemment, buvaient de la cervoise. En fait, la bière, stricto sensu, c'est de la cervoise avec du houblon, ce qui se généralise bien plus tard. Certes, les Gaulois et toutes les populations celtes et puis après germaniques consomment souvent des boissons tirées des céréales, davantage que les Romains. Mais les Gaulois, enfin, au 1er siècle de notre ère, et puis après, moi je commence à la fin de l'Antiquité, 4e, 5e siècle, oui, étaient très romanisés, et donc avaient des manières de boire qu'on pourrait caractériser de composites.
Je suis de Massilia, je m'appelle Olive Scartefix.
Extrait du film d'animation Astérix chez les Bretons, sorti en 1986.
Comme c'est trop compliqué que je vienne de Gaulle, il m'appelle Golix, c'est plus simple et c'est un nom qui me va bien.
Golix, pardon de t'interrompre, mais où est-on caché ce tonneau?
Bien sûr qu'on va le mettre à la carte avec mes tonneaux de vin gaulois. J'ai un petit blanc de chez moi, c'est tout à tis, en culotte de velours. Et je peux vous dire qu'ils aiment ça, les Bretons. Parce qu'ici, question boisson et nourriture, c'est pas la joie.
Blablabla.
Quand ils en ont assez de leur sauce à la menthe,
RCF,
ils viennent goûter le thé.
La suite de l'histoire.
Vous dites que le vin est un agent de romanisation. Qu'est-ce que ça veut dire?
La norme politico-culturelle qui s'impose en Gaule au moment de l'Antiquité, c'est la norme romaine. Et le fait de planter des vignes et de généraliser cette culture essentiellement à partir du 3e siècle de notre ère permet de diffuser cette puissance romaine, cette culture romaine dans la Gaule occupée.
Et ça fonctionne. La Gaule est recouverte de cépages.
D'après les sources, on a un édit en 280 qui autorise toutes les cités de la Gaule romaine de planter des vignes. C'est un moment important, c'est une autorisation, mais toute la fin de l'Antiquité et après au début du Moyen-Âge, les évêques et les grands aristocrates romains n'ont de cesse de planter des vignes pour mettre en valeur les territoires qui entourent ces cités, pour utiliser ces vignes dans la religion qui s'impose petit à petit au début du IVe siècle, qui est le christianisme.
Où est-ce qu'on boit et qui boit du vin ?
Nos sources évoquent avant tout les élites. Et avant tout les aristocrates qui écrivent, donc les aristocrates romains à la fin de l'Antiquité, au moment où la Gaule est en train de se transformer politiquement en différents royaumes barbares, entre guillemets. Et donc on sait que les aristocrates romains consomment du vin dans la longue tradition héritée de Rome. Petit à petit, les aristocrates germaniques, c'est-à-dire ceux qui s'appellent les Francs ou les Burgondes, deviennent adeptes également de cette boisson, d'autant plus que petit à petit ils se christianisent. Alors les Burgondes avant les Francs, hein, mais étant donné que dans la liturgie chrétienne le vin est essentiel, ils se mettent à consommer cette boisson qui représente une culture supérieure.
Dans quoi est-ce qu'on boit ? Dans des gobelets ? Dans de la céramique ?
Alors, ça dépend en fait du statut. Alors, effectivement, là, l'archéologie vient au secours. Et donc, on voit des gobelets de différents matériaux. Des gobelets vraiment très simples, très sommaires qui étaient utilisés au bas de la société. Puis, des gobelets beaucoup plus raffinés, en argent, avec des métaux précieux, décorés. Et là, qui étaient utilisés par les aristocrates ou par les nouveaux nobles francs installés dans la Gaule de cette époque-là.
Et dans quoi est-ce qu'on conserve le vin ?
À la fin de l'Antiquité, on observe une lente mutation, qui est le passage de l'amphore romaine au tonneau. Néanmoins, les deux coexistent pendant longtemps. Le tonneau commence à être utilisé de plus en plus régulièrement à partir du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Mais les archéologues ont retrouvé des amphores romaines qui viennent de l'Empire byzantin, donc enterrés dans des endroits en Gaule, jusqu'au 6e, 7e siècle après Jésus-Christ. Donc on a une association des deux. Chacun a son intérêt en fait. Le tonneau permet de faire des économies d'échelle, puisque évidemment c'est beaucoup plus volumineux. En revanche, on ne peut pas conserver le vin longtemps, alors que dans les amphores, les Romains réussissaient à conserver certains crus 20, 25 ans. Mais le problème de l'amphore, c'est en termes de poids, de pondéreux, et puis de fragilité également, puisqu'on transportait moins, et c'était beaucoup plus fragile que le tonneau de bois.
Donc ça permettait quand même aussi de transporter le vin.
Mais bien sûr, oui, oui.
Et donc de le commercialiser aussi, oui. D'un endroit à l'autre.
Et si on voit encore des amphores byzantines qui remontent la vallée du Rhône au 7e siècle, c'est que dans l'Empire romain qui subsiste, c'est-à-dire en Orient, on est toujours dans cette tradition de l'amphore. Et les Gaulois, ou les Francs, ou les Gallo-Romains, comme on peut les appelé au 5e, 6e, 7e siècle, continue à avoir des relations avec Byzance, avec l'Empire romain, avec des grands cépages qui se trouvent dans les terroirs grecs, par exemple.
Alors, on ne boit pas que du vin. Mathieu Lecoutre, à la fin de l'Antiquité, au début du Moyen-Âge, est-ce qu'on consomme de l'eau ?
Oui. On en consomme forcément. Alors, le problème de l'eau, c'est un problème de source. Tout d'abord,
au sens propre ou au sens figuré.
au sens propre, au sens figuré également. Oui, vous avez raison.
On en parle peu.
Oui, on en parle peu. En fait, c'est le parent pauvre de la recherche sur les boissons l'eau. Et alors, en termes de, c'est une question de source. Et puis c'est parce que c'est une question de symbole. Puis il y a une raison médicale également. Donc je m'explique. Une raison médicale, c'est l'idée que l'eau n'est pas un aliment. L'eau ne renforce pas. Le vin renforce, la bière peut renforcer, peut nourrir, l'eau ne nourrit pas. Par ailleurs, selon la théorie des humeurs qui existe à cette époque, et puis qui perdure jusqu'au XVIIIe siècle, la digestion, c'est une coction, c'est-à-dire c'est une cuisson qui se déroule dans l'estomac. Et les médecins pensent qu'un aliment froid, comme l'eau, va éteindre la cuisson et donc empêcher ou ralentir la digestion. Alors que boire une boisson comme le vin, considérée comme chaude, est censée aider la digestion. Ça, c'est la raison médicale. Question de source, au sens propre, l'origine même de l'eau, régulièrement, sauf si on habite dans des endroits comme dans les Alpes, avec des sources d'eau relativement pures, sauf lors de la fonte des neiges quand elle devient boueuse, eh bien, il est plutôt dangereux de boire de l'eau directement, puisqu'elle peut être putride. Il faut donc se méfier de l'eau. Ce qui nous surprend évidemment, nous, au XXIe siècle. Et puis, étant donné que c'est un aliment qui symboliquement représente la nature, en fait, c'est-à-dire que c'est pas du tout la culture, c'est pas travaillé, on la consomme telle qu'elle, l'eau n'est pas toujours valorisée. C'est une boisson que l'on partage avec la faune et la flore. Donc, ça rabaisse un petit peu l'être humain de consommer de l'eau. Et ça perdure jusqu'au Moyen-Âge. Alors, on peut boire de l'eau en coupant du vin. Ce qui n'est pas non plus systématique, ça a aussi pendant longtemps l'historiographie a pensé que les Romains coupaient toujours leur vin avec de l'eau, c'est vraiment à nuancer. On peut l'utiliser sous forme de glace, mais toujours associé à d'autres boissons, par exemple à du vin.
Mathieu Le Toucoutre, quel est le rôle des monastères dans la culture de la vigne et dans l'élaboration du vin et puis des boissons en général au Moyen-Âge ?
C'est un rôle essentiel. Les monastères commencent véritablement à se diffuser en Gaule à partir du VIe siècle. Et à ce moment-là, la culture monastique impose petit à petit une forme d'ascétisme qui est vraiment nouvelle et qui renouvelle vraiment les deux cultures qui dominaient dans la manière de boire. D'une part, la culture aristocratique romaine, faite de quantité, de qualité, d'opulence dans la manière de consommer. Et d'autre part, la manière de boire germanique, franque, qui insistait essentiellement, traditionnellement, sur la cervoise ou sur la bière.
Alors, qu'est-ce qu'inventent les moines ?
Alors, les moines, eux, insistent premièrement sur le vin, donc là, ils reprennent une part de romanité, mais surtout sur une forme d'ascèse qui limite plutôt le nombre de repas. Et cette manière d'appréhender l'alimentation, il faut la voir comme véritablement une quête de son salut de la part d'anciens aristocrates, puisque à cette époque-là, les moines sont avant tout des aristocrates de culture romaine ou germanique qui veulent changer leur manière de vivre pour atteindre l'au-delà.
Mais est-ce que c'est compatible avec la culture des vignobles ?
Alors,
il la développe cette culture.
Oui, parce que là, parallèlement à la diffusion du monachisme dans la Gaule, on a une christianisation de la Gaule qui s'opère en profondeur. Souvent, on pense que, étant donné que l'Empire romain au IVe siècle est chrétien, la Gaule devient chrétienne, et on pense que, étant donné que Clovis, à la fin du Ve siècle, se convertit, rapidement, tout le monde se convertit. C'est complètement faux. Il y a du polythéisme qui se maintient vraiment en profondeur, et ce sont les moines qui vont installer ces monastères dans les forêts, dans les confins, dans les montagnes, dans les déserts au cœur de la Gaule, qui vont au contact des ruraux, des paysans. Paysans, c'est la même racine que païen, et qui vont tenter de les convertir. Alors ça, c'est vraiment un travail de longue haleine qui s'achève à la fin des Mérovingiens. Et ces moines-là utilisent le vin comme aliment essentiel de la liturgie, puisque par le miracle de la transsubstantiation, c'est le sang du Christ. Donc c'est une boisson à consommer avec tempérance, du juste milieu. Et chez les bénédictins, par exemple, il y a des règles qui sont connues, et on pense que les bénédictins avaient le droit de boire environ un quart de litre de vin par jour.
À quel moment est-ce que la bière commence à être fabriquée dans les monastères ? Est-ce que ça date du Moyen-Âge ?
La bière, stricto sensu, c'est-à-dire de la cervoise avec du houblon, commence à se généraliser en termes de production à partir de 822. Enfin, ça, c'est une source qu'on a, donc début du 9e siècle, dans le monastère de Corbie. Puisque là, pour la première fois, donc on est à l'époque carolingienne.
Ça se trouve où ?
Ça se trouve au nord, en fait, hein, de la Gaule. De
forcément.
L'époque. Oui, forcément, effectivement. Alors, pourquoi la bière, alors que je viens d'évoquer le vin, le sang du Christ ? C'est qu'en fait, on se trouve dans des territoires septentrionaux dans lesquels la culture de la vigne est compliquée. Alors dans ces cas-là, notamment chez les bénédictins, on peut s'arranger avec le climat et on a le droit de remplacer dans la consommation quotidienne le vin par la bière. Ce qui d'ailleurs n'est pas pour déplaire à une partie de ces aristocrates carolingiens qui sont de culture germanique, pour lesquels la bière est quelque chose de quotidien.
On a parlé de l'eau dans l'émission précédente. Oui. Au Moyen-Âge, on s'en méfie toujours et on considère qu'elle n'est pas forcément très bonne pour la santé.
Oui, toujours. Alors, évidemment, là, nos sources historiques concernent avant tout les villes médiévales. Alors là, il y a aussi un cliché sur les villes médiévales, longtemps vues comme des véritables cloaques. Hein. Évidemment, c'est à nuancer. Néanmoins, il fallait quand même choisir, quand on vivait dans une ville médiévale, l'endroit où on voulait puiser son eau. Souvent, elle donnait de l'eau de qualité médiocre et en quantité insuffisante. Par exemple, au XIIIe siècle, à Paris, pour les environ 200 000 Parisiens, on pense que les fontaines parisiennes ne pouvaient donner par jour que 1 à 2 litres d'eau potable. Par habitant, effectivement. Pour tout faire. Hein, ce qui, évidemment, semble très insuffisant. Par ailleurs, les Parisiens pouvaient puiser l'eau dans la Bièvre ou dans la Seine, à leur risque et péril. Puisqu'on a énormément de sources qui racontent que la Bièvre ou la Seine sont rouges, couvertes de débris, dues aux teinturiers, dues au rejet des eaux usées par les bouchers. Donc il était préférable, dans ces cas-là, de puiser son eau en amont de l'endroit où les eaux usées étaient rejetées.
Ça, c'est propre à la ville et en particulier à Paris, quoi.
Et à Paris, après, on a des récits similaires qui concernent d'autres villes comme Meaux, comme Toulouse, hein. Des villes, des foires de champagne qui attirent de plus en plus de monde, mais qui sont confrontées à un véritable problème de consommation d'eau. Ce qui n'est pas très grave, j'aimerais dire, puisque de toute façon, les médecins ne vendent pas la consommation d'eau, sauf si elle est très pure. Alors, comment savoir si elle est très pure? En fait, il faut qu'elle soit insipide. C'est les conseils que donnent les médecins. Voilà.
Le lait.
Alors le lait, qui a toujours existé à partir du moment où on a de l'élevage, néanmoins on s'en méfie fortement parce que évidemment la pasteurisation n'existe pas, donc le lait cru ne se conserve que très peu. Donc il est fortement conseillé de boire le lait immédiatement et de ne pas en donner aux malades. Alors ça, c'est une vision médicale typiquement médiévale, étant donné que le lait s'altère rapidement. On pense qu'il va agir de la même manière à l'intérieur de l'organisme.
Et donc il inquiète, dites-vous.
Il inquiète, et notamment s'il y a des récits de médecins qui parlent de lépreux, donc pour lesquels il faut surtout pas donner de lait, puisqu'en fait ça, le lait caillé, enfin, ressemble un petit peu à la peau du lépreux. Donc on ne donne le lait qu'aux jeunes enfants, et essentiellement du lait qui vient plutôt
du lait d'ânesse, par exemple,
ou de brebis. Parce que ce que je pense, moi, c'est que le lait de vache renvoie à un symbole de virilité, hein, le taureau, la vache.
Pas bon pour les enfants, donc.
Effectivement, ouais, pas bon pour les enfants, donc il est préférable qu'ils consomment des laits issus d'animaux moins puissants.
À quel moment le cidre commençait-il à être élaboré?
On ne sait pas.
Mais au Moyen-Âge, en tout cas.
Oui, bien sûr, oui. En fait, le cidre, c'est une boisson qui peut se faire naturellement. En revanche, on sait que à la fin du Moyen-Âge, il y a un grand pôle de production du cidre qui est la Normandie, et pendant longtemps. Pourquoi la Normandie est-elle le pôle de production du cidre alors que la Bretagne ne produit pas du tout de cidre, par exemple? L'une des hypothèses qu'on peut avancer, c'est une hypothèse climatique et économique. C'est-à-dire qu'en Normandie, le climat est particulièrement pluvieux et froid par rapport à la culture de la vigne. Ce qui oblige régulièrement les Normands à essayer de trouver d'autres boissons alcoolisées que le vin. Il semble que ce soit donc les vergers qui aient été choisis pour remplacer la vigne et que petit à petit, la Normandie soit devenue le grand pôle de production du cidre. En Bretagne, c'est pas la même chose puisque grâce à des grands ports tels que Nantes ou d'autres ports du Morbihan aujourd'hui, eh bien, la Bretagne est très bien connectée avec la Gascogne de l'époque et notamment avec Bordeaux. Et donc, il y a une diffusion des vins du sud-ouest du royaume vers la Bretagne, ce qui donne à boire à ces Bretons.
Bordeaux devient une ville importante à ce moment-là?
C'est essentiel. À partir de 1224, au cœur des tensions entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre, se passe un tournant, c'est-à-dire que le royaume de France récupère La Rochelle. La Rochelle était le grand port exportateur de vin des Anglais. Les Anglais ayant perdu La Rochelle, ils sont obligés d'utiliser un autre port. Et donc c'est Bordeaux qui est utilisé. Et c'est à partir du milieu du XIIIe siècle que la viticulture bordelaise s'impose et que naissent ces liens très forts qui existent encore aujourd'hui entre le sud-ouest français et les voisins anglais.
Suite de l'histoire.
À quel moment apparaissent également, Mathieu Lecoutre, les cabarets, les tavernes, tous ces endroits publics où l'on peut consommer du vin ou d'autres boissons?
Alors les cabarets existaient déjà à l'époque des Romains évidemment, mais avec l'essor des échanges et notamment la multiplication des foires de champagne par exemple dans le grand bassin parisien, la connexion entre l'Europe du Nord et l'Europe méditerranéenne, eh bien on a de plus en plus de voyageurs. Et ces tavernes, ces cabarets sont avant tout destinés aux voyageurs. On a une ordonnance de Saint-Louis au XIIIe siècle qui explique que ces cabarets ne doivent être fréquentés que par les voyageurs. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que les sujets de son royaume passent leur temps à s'enivrer.
Une dernière question. Ouais. Au Moyen-Âge, la consommation de vin notamment est la même pour les hommes et pour les femmes? Ou bien il y a vraiment une distinction à faire?
Alors en termes quantitatifs, on ne sait pas. On ne saura jamais combien consomme un homme, combien consomme une femme en moyenne. Ça, c'est impossible à savoir.
Mais sur le plan culturel, disons.
Sur le plan des représentations, oui, là, il y a une différence qui perdure pendant longtemps. C'est-à-dire que régulièrement, on associe la consommation de boissons enivrantes, et essentiellement consommation de vin, et la féminité à la prostitution, à la luxure. Et là, on est dans l'héritage, en fait, hein, des péchés capitaux chrétiens qui font notamment de la gourmandise, donc la goula, ce qui vient de la gorge, un péché capital qui en amène d'autres. Et l'un des péchés qui est le plus souvent provoqué par un excès de gourmandise, c'est la luxure. On le voit par exemple avec Noé, on le voit par exemple avec Lot et ses filles.
Ce qui marque l'époque moderne de Mathieu Lecoutre, ce sont les grandes découvertes. Quelles conséquences ont-elles sur les boissons que l'on consomme en France dans les siècles qui vont suivre?
La principale conséquence des grandes découvertes, c'est le renouvellement des boissons qui sont consommées en France. Par ces grandes découvertes arrivent dans le Royaume de France le chocolat, le café, le thé et se généralisent les eaux de vie. Par rapport au chocolat, on peut évoquer sa découverte par les Espagnols à la fin du XVe siècle, la boisson des dieux pour les Aztèques, et son introduction en Europe, et en ce qui concerne la France, son succès à partir du XVIIe siècle. Son succès relatif par rapport à d'autres boissons comme le café. Le chocolat, effectivement, est consommé sucré, alors que les Aztèques ne consommaient pas du tout sucré. Ils pouvaient rajouter du piment, par exemple, au chocolat. En France, on rajoute du sucre, on rajoute du girofle, on rajoute de la vanille. On mélange la pâte de cacao avec de l'eau ou bien avec du lait et on fait mousser avec un petit bâton qu'on appelle un moussoir. Enfin, on voit ça dans des tableaux.
Technique, paraît-il.
Oui, c'est très technique et c'est raffiné, puisque ça permet de se distinguer. Donc là, on retrouve un peu Bourdieu. C'est-à-dire que oui, on a une nouvelle boisson, mais qui est vue comme utile pour se différencier et qui est vue comme aphrodisiaque. On retrouve des sources telles que un service à chocolat qui est offert par Louis XV à son épouse, Marie Leschinska, en 1729, pour fêter la naissance du dauphin. Peut-être grâce à cette boisson, en tout cas, peut-être le pense-t-il.
Le café, alors, vous disiez qu'il a un succès plus rapide que le chocolat ?
Oui, c'est-à-dire qu'il permet de stimuler l'intelligence, c'est comme ça qu'on le perçoit, permet de stimuler l'intelligence durablement, de tenir éveillé et de remplacer la boisson qui était utilisée jusqu'alors pour cela, c'est-à-dire le vin. Rabelais, au XVIe siècle, explique qu'il écrit ses ouvrages en buvant du vin. Les philosophes des Lumières écrivent leurs ouvrages en buvant du café. Et on a des philosophes des Lumières, des gastronomes comme Grimaud de la Reynière, portés par un engouement pour cette boisson et qui, écrivent-ils, sont capables de boire jusqu'à 17 tasses de café dans la journée pour stimuler leur réflexion. Et donc les philosophes se retrouvent dans des grands cafés parisiens comme le Procope qui existe toujours aujourd'hui dans le 6e arrondissement, Diderot ou d'autres sont
consomment du café.
Consomment, débattent et refont le monde autour de tasses de café.
Et le thé alors?
Alors le thé, on pourrait dire, a exactement la même mission, c'est-à-dire qu'il stimule sans enivrer, mais il arrive un petit peu après. C'est-à-dire que la place de boisson stimulante est déjà prise par le café en France, contrairement à ce qui se passe chez nos voisins anglais. Par ailleurs, le thé, contrairement au café, ne suscite pas un engouement particulier des philosophes des Lumières. Vous voyez, en fait, il faut qu'il y ait une utilité symbolique et médicale associée à toute boisson qui vient de l'extérieur et qu'il y ait des sortes de prescripteurs de normes qui jouent le rôle de relais. Et en France, le thé n'a pas eu ces relais élitistes qu'il a eu pour les consommateurs de café, par exemple.
Alors pourquoi est-ce que les eaux de vie, disiez-vous, apparaissent aussi à ce moment-là, à partir du XVIe, XVIIe siècle ?
Le mot eau de vie apparaît au XIVe siècle, par Arnaud de Villeneuve, mais c'était une boisson limitée à une sphère médicale.
D'où le nom ?
D'où le nom, oui, eau de vie, oui, c'est ça. C'est-à-dire que on aborde une cinquième humeur. On connaît les quatre humeurs héritées d'Hippocrate et de Galien. Et bien là, on atteint la cinquième, la quintessence, qui est la vapeur, en fait, hein, ce qui est conservé à la fin. Et donc, le succès de l'eau de vie au XVIIe siècle s'explique par les longs voyages des marins entre l'Europe et l'Amérique. Vous savez, ces voyages durent très longtemps, parfois deux mois. Hein. Et donc, l'eau tourne et le vin également. Et la solution qu'on trouve, c'est de partir avec de l'eau de vie. C'est-à-dire qu'on brûle le vin, il en reste grosso modo un cinquième. Ça fait du brandevin ou de l'eau de vie. On peut l'aromatiser hein, selon ses goûts. Et ça permet d'avoir toujours à consommer pendant la traversée et aller-retour de l'Atlantique. Symboliquement, l'eau de vie devient vraiment une boisson de marin et une boisson qu'on boit dans les ports. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on a des philosophes des Lumières au XVIIIe siècle qui expliquent que le punch ou enfin l'eau de vie en général, les ratafias, etc., ne remporteront jamais aucun succès chez nous parce que les femmes n'en boivent pas, alors que la France est une nation galante. Et donc, ils pensent que jamais les hommes français ne pourraient consommer énormément d'eau de vie parce qu'ils déplairaient aux femmes. La consommation actuelle semble démontrer plutôt le contraire.
Qui veut chasseur? Une migraine n'a qu'à boire toujours du bon et maintenir la table pleine de cervelasse de jambon. L'eau les fériants qui pourrit le poumon. Boute, 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 boute compagnon. Videz-nous ces verres et nous les remplirons. L'eau les fériants qui pourrit le poumon.
RCF, la suite de l'histoire.
C'est là qu'on voit apparaître l'Armagnac, le Cognac.
Oui, effectivement. Étant donné que les grands ports de l'Ouest s'ouvrent de plus en plus vers l'Amérique, on a un terroir de l'Ouest atlantique hein, qui s'adapte à la nouvelle demande. Les grands vins de Bordeaux occupe déjà une place au sud, et donc entre la Bretagne et le Bordelais, eh bien on a l'Aunis, le Poitou, etc., l'Armagnac, qui brûle des vins de moins bonne qualité que ceux qui sont de la région bordelaise, et remporte un grand succès avec la naissance des premiers cognacs, des premiers armagnacs, d'ailleurs commercialisés en grande partie par des Irlandais qui sont arrivés dans le Royaume de France, et notamment la famille Hennessy, dès l'époque de Louis XIV.
La prédominance des vins de Bordeaux donc se confirme.
Oui.
On voit apparaître aussi à ce moment-là un autre pôle, si on peut dire, viticole, celui de la Bourgogne.
Le pôle bourguignon s'est déjà affirmé à la fin du Moyen-Âge, hein, 14e, 15e siècle, sous l'impulsion des grands ducs de Bourgogne. Alors, effectivement, le 17e et 18e siècle, c'est le moment de la naissance des grands crus de Bourgogne et la naissance des, ce qu'on pourrait appeler, des vins de terroir. Alors, pour la Bourgogne, ça fait hurler, donc on pourrait dire des vins de climat, puisque la première fois qu'on a une appellation bourguignonne qui émerge, c'est en 1691, c'est la première fois qu'on voit dans une source vin de Chambertin. Et si on écrit vin de Chambertin sur une bouteille, c'est pour montrer que ce vin-là vient de ce terroir de qualité et que ce terroir de qualité mérite de produire un vin qui va se vendre bien plus cher que n'importe quel autre vin, puisque précédemment, dans les sources, on voyait vin de Beaune ou vin de Bourgogne, ce qui voulait dire uniquement que c'était des négociants bourguignons qui avaient vendu ce vin-là. Donc on a le Pinot Noir et le Chardonnay qui deviennent les cépages nobles de la Bourgogne et qui irriguent la cour de France, et notamment Versailles, sous l'impulsion des médecins de Louis XIV.
Un petit nouveau fait également son apparition au XVIIIe siècle, c'est le champagne.
Oui. Alors le champagne effervescent, ou champagne mousseux.
On dit ça comme ça.
Oui, oui, aujourd'hui ça ferait hurler évidemment, mais c'était du champagne mousseux pour le différencier du champagne tranquille. Puisque le vin de champagne, il est vieux comme l'Antiquité, mais c'était du champagne sans bulles, tranquille. Et la naissance du vin de champagne effervescent a lieu au XVIIe siècle, grâce aux Anglais. Et non pas grâce à Dom Pérignon, ça renvoie à la légende. En fait, la grande puissance maritime économique dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est l'Angleterre. Et les nobles anglais, argentés, adeptes de l'ivresse, ont découvert que s'ils rajoutaient du sucre dans du vin quelconque, hein, et pourquoi pas de champagne, tranquille, ça favorisait l'effervescence. Et puis surtout, ça le rendait plus alcoolisé. Donc ça leur plaisait. Donc ils avaient l'habitude d'acheter du vin tranquille et de rajouter du sucre et de produire eux-mêmes leurs bulles. Et au XVIIIe siècle, les vignerons champenois effectuent un mariage de raison entre le terroir champenois et le vin à bulles. Et ils vont produire eux-mêmes ce vin effervescent pour s'adapter à la demande anglaise. Et c'est par la suite que le vin de Champagne devient, grâce à une bonne communication, le vin de la noblesse, le vin de la joie, et comme l'écrit Voltaire dans le premier tiers du XVIIIe siècle, le symbole même de la nation française. Et on a des tableaux magnifiques comme celui de Jean-François de Troyes ou celui de Nicolas Lancret qui se trouve dans les petits appartements de Versailles, donc de Louis XV, donc le déjeuner au jambon, au déjeuner d'huître, où on voit des nobles qui s'amuse de l'ouverture d'une bouteille de champagne, qui regarde le bouchon voler, et puis qui regarde le champagne mousser. Et ce champagne se vend très cher, et ça permet de se distinguer du bas peuple qui n'a pas évidemment les moyens d'acheter ce grand cru champenois.
Alors on voit bien que toutes ces boissons alcoolisées servent aussi donc de distinction aux élites. Mmh. Est-ce que ça veut dire que le petit peuple, que les paysans notamment, ne boivent rien de tout ça, ou bien, si vous me permettez l'expression, de la piquette ?
Alors, ça dépend quel siècle on évoque. Il semblerait qu'au XVIe siècle, le bas peuple consomme du vin, et parfois le même vin que les élites. En revanche, à partir du XVIIe siècle et surtout du XVIIIe siècle, on a l'affirmation des grands crus, avec à la fin du XVIIIe siècle des vins de Bordeaux, des Médocs ou des Graves qui coûtent 20 fois le prix d'un vin ordinaire bordelais. À partir de ce moment-là, le bas peuple ne peut pas évidemment s'acheter ses grands Médocs, ses grands Champagnes, ses grands Bourgognes. C'est fini. La piquette en question, le mot piquette, c'est parfois employé pour désigner un vin de mauvaise qualité qui pique. À l'époque, c'était pas du tout ça. La piquette, c'est une boisson générée à partir du mou du vin sur lequel on a versé de l'eau, ce qui fait une boisson vineuse mais très légère et donc qui est peu onéreuse et qui est en revanche très rafraîchissante. Et alors là, pour les travailleurs de force, notamment l'été, notamment lorsque le vin commençait à manquer à partir de la fin du printemps, eh bien les sources montrent que ces travailleurs qui travaillent dans les champs boivent beaucoup de piquette. Mais dans mes recherches dans les cabarets, jamais j'ai vu un cabaretier qui vendait de la piquette. Tous les cabaretiers vendent du vin, du cidre, de la bière pure. C'est-à-dire que lorsque le bas peuple va au cabaret boire, il boit du vin. Alors du vin local.
Hein, mais du vin quand même.
Mais du vin quand même.
Le 19e siècle, Mathieu Lecoutre, est une période de révolution dans de très nombreux domaines. Et ces révolutions, elles ont un impact, bien sûr, sur les boissons qui sont consommées en France. La première révolution à laquelle on pense, c'est celle de l'industrialisation et de toutes ses conséquences. Quelles sont les autres révolutions qu'on peut évoquer ? Dans le livre, vous parlez de celle des transports.
Oui, essentiellement celle du train, qui permet de connecter les zones de production avec des zones de consommation. Alors, à plus large échelle. Puisque quand on veut produire, par exemple, un grand vin, si on n'a pas un marché vers lequel écouler la production, ça ne sert à rien. Et alors là, l'outil ferroviaire, en fait, permet véritablement d'unifier, de réunir dans un marché l'ensemble du territoire. Et donc, on a la diffusion des productions qui viennent du sud-ouest aquitain ou de la Provence jusqu'à Paris, qui est véritablement le grand marché de consommation. Donc qui va façonner des nouvelles manières de consommer et de boire.
Et donc la révolution que représente la réfrigération, qui est aussi à noter.
Oui, et qui notamment donc permet de conserver les boissons et ce qui va permettre de renouveler la production de la bière. Puisque jusqu'au 19e siècle, les brasseurs étaient plutôt proches des artisans. Et à partir du 19e siècle, on a des grandes maisons qui vont utiliser donc ce froid industriel associé à la pasteurisation pour diffuser des boissons telles que la bière à basse fermentation partout dans le pays. Alors, de manière lente, mais on a dans les années 1870 des bières qui viennent des Vosges, d'Alsace, qui sont consommées à Paris et qui remportent un grand succès.
Est-ce qu'on peut dire que la vraie révolution en termes de boissons en France, donc concernant la moitié du 19e siècle à peu près, c'est l'eau ? Et la manière dont désormais elle va pouvoir être distribuée, on va pouvoir alimenter les villes, la traiter avec la pasteurisation, la mettre en bouteille et la conserver.
Oui. Alors là, c'est une longue histoire. Par rapport à l'eau potable qui est accessible à tout le monde, on peut prendre l'exemple parisien. À Paris, à partir des années 1820-1830, donc au moment de la restauration de la monarchie de Juillet, eh bien, on a des autorités politiques qui souhaitent améliorer l'hygiène parisienne et donc qui commencent à s'engager dans des grands travaux d'adduction d'eau qui sont véritablement achevés en termes d'hygiène moderne à Paris à l'époque de la Troisième République. Fin 19e siècle, on a tous les Parisiens qui vivent dans des immeubles modernes qui ont un accès direct à l'eau potable chez eux.
Dans leur appartement.
Dans leur appartement. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, partout, hein, dans les communes rurales du 19e siècle. Évidemment, on n'a pas d'accès direct à l'eau potable encore. Ça, c'est par rapport à la logique urbaine. Par rapport aux grandes entreprises telles que Badoit, Perrier, etc., on a également une révolution commerciale et industrielle qui se met en place. Et si on prend l'exemple de Badoit qui achète en 1837 une source à Saint-Galmier et qui va être l'origine de son succès, qu'il va réussir à vendre en pharmacie, dans les restaurants, dans les hôtels, comme étant une boisson saine.
Un médicament. Quoi.
Un médicament, effectivement. D'ailleurs, en 1897, la société de médecine valide l'eau de Badoit comme étant une eau d'utilité publique. Et donc là, la partie est gagnée. Ce que fait Badoit, Perrier le fait au même moment, en utilisant également la publicité pour vanter les bienfaits de sa boisson. Et notamment, en 1928, Perrier sponsorise Roland-Garros, ce qui montre que si on consomme cette eau-là, on arrive à être en pleine forme physique, ce qui paraît logique aujourd'hui, mais ce qui ne l'était pas à l'époque, puisque jusqu'alors, les travailleurs de force, pour être en pleine forme, devaient boire 1 à 2 litres de vin par jour.
Y compris sur leur lieu de travail, ce qui nous laisse songeur aujourd'hui.
Effectivement, y compris les sportifs.
Après, on voit apparaître à ce moment-là aussi la Société Générale des Eaux, la Lyonnaise des Eaux. Ça veut dire que l'eau est privatisée en quelque sorte ?
Oui, sous l'impulsion de l'État. Donc, c'est des entreprises comme la Lyonnaise des Eaux sont essentielles pour tous les travaux d'adduction d'eau. Pour
dont
amener
vous parliez
l'eau,
tout à l'heure.
Voilà, effectivement, pour amener l'eau dans les logements des Français.
Alors, la pasteurisation, qu'est-ce que ça amène de plus ?
La possibilité de conserver l'eau et donc de la vendre sur des plus longues distances. Et donc la certitude que l'eau ne va pas tourner, ce qui permet de créer une tension au sein des consommateurs entre l'achat de vin ou l'achat d'eau. Puisque traditionnellement, le vin était vu comme une boisson saine. Enfin, c'est Pasteur lui-même qui l'explique, que si le vin est de bonne qualité, on doit en boire 1 litre par jour. Petit à petit, ça entre en tension avec des discours médicaux contradictoires qui expliquent que l'eau est une boisson saine. Mais alors là, on est plutôt au XXe siècle.
Dans ma rue, il y a 2 boutiques. Dans l'une, on vend de l'eau, dans l'autre, on vend du lait. La première n'est pas sympathique, mais la seconde, en revanche, où l'on vend du lait. Et c'est pour ça que tous les passants la montrent du doigt en disant: à qui les vole des billets, à qui les lèle des billots, des billets si beaux, des billots si laids. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Au débit d'eau, il y a le beau Bobby. Au débit de lait, il y a la belle Babé. Ils sont vraiment gentils, chacun dans leur débit. Mais le Bobby et la Babé sont ennemis. Car les badauds sont emballés par les bidons de lait Babé.
Pour en revenir à la consommation de vin, elle est possible et même recommandée sur le lieu de travail, donc dans les lieux publics aussi évidemment, sans problème. Elle donne de la force, cette boisson-là, toujours.
Oui, mais en fait, il y a une identification qui associe vin à vitalité, qui associe le vin rouge au sang et donc à la force physique. C'est Barthes qui explique, c'est une boisson totem. Enfin là, il écrit au milieu du XXe siècle, dans les années 1950, c'est une boisson totem pour les Français. Dans mes recherches, j'ai vraiment montré que c'est à partir des années 1950-1960 que le vin perd de sa puissance culturelle dans notre pays.
Au XIXe siècle, vous notez dans votre livre qu'on voit une baisse de la consommation de soupe, notamment dans les campagnes. Comment est-ce que ça s'explique ?
C'est lié à ce que les historiens appellent la fin des terroirs, ou à l'exode rural, ou à la migration des Français de plus en plus vers la ville. La soupe, ça a été pendant longtemps la manière de consommer l'eau la plus traditionnelle, en la faisant bouillir, l'eau est purifiée. Associée aux ressources du jardin, ça donne donc la soupe quotidienne. Avec l'exode rural, entre guillemets, on a les Français qui s'éloignent de la tradition rurale, qui s'éloignent des jardins et qui petit à petit abandonnent cette manière très rurale de consommer de l'eau.
Tous les repas pouvaient être concernés. On pouvait boire ou manger, je ne sais pas comment dire, alors, sa soupe, y compris le matin.
Oui, mais alors il faut faire attention au sens des termes, puisque dans les sources on parle de la soupe du matin, mais en fait la soupe du matin c'est souvent du vin avec du pain. Voilà, donc c'est la soupe du paysan qui, à 7h du matin, prend son pain et son vin. Parce que ça réveille. Voilà. Par la suite, et notamment le soir, il faut un plat revigorant. Et donc c'est la soupe ou le potage qui fait office de plat revigorant et peu onéreux. Alors la soupe à succès dans la longue histoire de France, c'est la soupe aux choux qui est consommée d'avril à la fin de l'hiver en fait.
Alors dans le souci hygiéniste dont vous parlez tout à l'heure, Mathieu Lecoutre, il faut noter l'apparition de l'alcoolisme, un mot nouveau d'ailleurs au XIXe siècle. Comment est-il né ? Avant, on parlait d'ébriété.
Oui, d'ivrognerie, d'ébriété. En fait, alcoolisme, c'est un mot qui est créé en 1849 par un médecin, Magnus Huss, et qui a une vision de l'alcoolisme comme étant une maladie, ce qui n'était pas toujours le cas avec l'ivrognerie.
C'était un vice,
mais ça pouvait être aussi une maladie. On a des médecins du XVIIe siècle qui expliquent que ça provoque 53 maladies. Bon, mais au XIXe siècle, on a de plus en plus le mot alcoolisme qui est utilisé dans une lecture sociale de la déchéance, enfin des échecs. Et donc là, on a l'alcoolisme qui devient de plus en plus un fléau, avec des catégories ou des classes qui peuvent être vues comme dangereuses.
Par exemple ?
Et les ouvriers. Donc ça, évidemment, on le voit dans les sources bourgeoises qui sont relativement effrayées de ce que peuvent faire certains ouvriers lors d'émeutes, lors de révoltes, etc.
Sous l'emprise de l'alcool,
pense-t-on. Mais alors là, on réutilise également des clichés. Alors, certaines révolutions, évidemment, se font autour de boissons alcoolisées, avant, pendant ou après, pour fêter le succès. Mais là, dès l'époque romaine, en fait, hein, on a des élites qui expliquent que les masses sont très dangereuses parce qu'elles sont tout le temps enivrées. Vous voyez, c'est du mépris de classe, en fait, du mépris social. Dans les faits, l'alcoolisme comme fléau social s'épanouit à partir des années 1870, c'est-à-dire après la Commune. On a une grande partie des élites conservatrices françaises qui se méfient fortement de ces dangereux ouvriers capables de tuer l'archevêque de Paris et de tenter une révolution qui permettrait de créer une société beaucoup plus équitable, égalitaire. Donc on en fait des hordes d'individus enivrés.
Et donc il y a une lutte contre l'alcoolisme alors, qui se met en place.
Effectivement, la Commune et la défaite de 1870 contre les Prussiens et leurs alliés autres-allemands et la Commune en 1871 génère une peur qui a pour conséquence directe, en 1872, la création de la première société de tempérance en France, sur le modèle américain, anglo-saxon. Leur objectif, hein, très clairement, c'est la lutte contre cet excès de consommation. Alors au début, ils prêchent plutôt dans le désert, mais petit à petit, ils réussissent à obtenir un certain écho. La première grande loi qui va lutter contre l'ivresse, c'est 1873, c'est la loi Roussel contre l'ivresse publique manifeste. Après, il est toujours compliqué, sans éthylotest, sans moyens scientifiques précis, de savoir si quelqu'un est ivre ou non. Parce qu'à chaque fois qu'on demande à quelqu'un s'il est ivre, il va toujours dire non.
Même
quand il l'est, évidemment. Donc là, vous voyez, l'ivresse publique manifeste, c'est pas un bon outil pour lutter contre cette réalité. Et c'est d'autant plus compliqué à lutter contre cette réalité que, dans les années 1880, arrive ce qu'on appelle l'heure de l'apéro, c'est-à-dire le moment entre 17 et 19 heures, notamment dans les grandes villes, où on consomme de l'absinthe, où on consomme des vermouths, c'est-à-dire différents apéritifs qui sont créés. Et puis surtout, c'est d'autant plus compliqué de lutter contre cette réalité de l'alcoolisme quand arrive la Première Guerre mondiale, qui est vue par les historiens comme un grand moment d'alcoolisation, d'apprentissage de l'alcoolisation des hommes.
Sur le front
Plutôt en arrière. C'est-à-dire que sur le front, ça a été travaillé récemment, les poilus n'ont pas le droit à plus d'un litre de vin par jour, ce qui est la norme de Pasteur. Hein. Bon, ce qui n'est pas vu comme un excès à l'époque. En revanche, les sources montrent très clairement que quand ils sont à l'arrière, en deuxième, troisième ligne, là, il y a des grands moments d'ivresse qui s'expliquent de différentes manières. Organisés ou en tout cas autorisés. Aux grandes dames de certains officiers qui voient leurs soldats enivrés dans le fossé. Ce qui peut s'expliquer, évidemment, par le traumatisme que vivent ces hommes quotidiennement au front et la volonté d'oublier grâce à ces boissons parfois distillées qui sont disponibles à l'arrière.
Pour conclure nos entretiens consacrés à l'histoire de la boisson, Mathieu Lecoutre, nous allons nous arrêter sur le XXe siècle, qui est le siècle de la mondialisation. En quoi est-ce que ça a un impact sur la manière dont on boit en France ?
Alors la mondialisation, si on définit ce terme, c'est une dynamique d'ouverture du territoire national sur un territoire mondial, donc d'économie nationale sur une économie mondiale. Alors cette mondialisation, elle est ancienne, hein, elle date des grandes découvertes évidemment, mais ce XXe siècle et XXIe siècle sont caractérisés par le poids de cette mondialisation. Ça signifie donc que la culture qui s'est construite en France est de plus en plus confrontée à ce qui vient du monde entier. Alors on peut parler des sodas, des boissons sucrées. Alors les premiers sodas, c'est Schweppes, ça date de 1790, mais évidemment quand on parle parle de soda, on pense États-Unis, on pense Coca-Cola. Donc c'est 1886 à Atlanta. Alors ici c'est intéressant parce que la mondialisation c'est un échange, et dans la création du soda Coca-Cola, on a un échange puisque Pemberton, le médecin charlatan qui est à l'origine du Coca-Cola, a comme projet initial de copier une boisson qui est française, Mariani, un Corse, qui au milieu du 19e siècle remporte un grand succès en Europe en vendant du vin de Bordeaux associé à de la feuille de cola. Le problème, c'est que le pauvre Pemberton ne peut pas proposer ça à Atlanta puisqu'il y a une prohibition. Donc, il remplace le vin de Bordeaux par une boisson beaucoup plus sucrée, et ça donne le Coca-Cola, censé être un médicament. Et donc là, on retrouve vraiment une logique de toute boisson nouvelle. Il faut qu'il y ait une justification, il faut qu'il y ait un sens. Et donc, le Coca-Cola commence sa grande épopée. Alors, d'abord aux États-Unis, plus ou moins difficilement, et puis c'est surtout à partir de la Première Guerre mondiale, et donc de l'entre-deux-guerres, que le Coca-Cola est introduit, notamment chez nous. Et aujourd'hui, quand on demande aux Français quel est le type de boisson qu'ils préfèrent, ils disent des jus de fruits et des sodas.
La consommation de vin en France chute à partir des années 60. Jusque-là, disons dans la première moitié du XXe siècle, elle est constante et elle concerne toutes les classes de la société ?
Non, elle est constante, pas vraiment. En fait, ça dépend des moments de crise. Il y a des moments de surproduction ou de sous-production. En revanche, il est vrai que le vin est une boisson totem jusqu'aux années 1950-1960. À partir des années 1960, on commence à moins boire. Alors, pour donner un ordre de valeur, puisque là, on est capable de chiffrer, en 1960, on pense qu'un Français boit en moyenne 100 litres de vin par an. Aujourd'hui, c'est 42 litres, plus de deux fois moins, et ça ne cesse de chuter. On boit moins de vin, mais on boit du vin de meilleure qualité. Le vin ordinaire, le vin de table basique est de plus en plus rare, y compris dans les cubis, qui sont de plus en plus vendus dans les supermarchés. On a un vin qui est de bonne qualité gustative. Alors, pourquoi est-ce que les Français boivent de moins en moins de vin ? C'est lié à un discours sanitaire, médical, à une prise en main par les dirigeants politiques d'un fléau qui est le problème de l'alcoolisme au volant, avec un pic qui a atteint en 1972 avec 18 000 morts sur les routes en une année. Alors, pas 18 000 morts à cause de l'alcoolisme, mais une cause essentielle. Aujourd'hui, on est autour de 3 000, 4 000 morts, enfin ça dépend des années, sur les routes, dont un tiers à cause de l'alcool. Il semble que la vitesse soit la cause essentielle, mais l'alcool
évidemment, voilà, favorise les accidents.
Évidemment, oui.
Un petit retour en arrière concernant la consommation d'alcool par les enfants.
Oui.
À partir de quel âge commençait-on à boire du vin, notamment dans les campagnes ? Alors, je ne sais pas si d'ailleurs, dans les élites, c'était aussi quelque chose qui faisait partie des mœurs.
Dès le plus jeune âge, en fait. Dès le plus jeune âge, ce qui paraît surprenant aujourd'hui, dans certains endroits, rapidement, en fait, le jeune enfant était confronté à un verre de vin coupé d'eau ou de cidre coupé d'eau ou de cidre pur, avec l'idée, dans certains endroits de Bretagne, que le cidre, c'est pas de l'alcool. Dans certains endroits également, on entendait que le vin, c'était pas de l'alcool non plus. Il est vrai que jusqu'en 1956, on a le droit de donner des boissons alcoolisées à boire à l'école aux enfants en France.
À l'école ?
À l'école, oui, jusqu'en 1956. Et on a des enquêtes qui sont faites, notamment une qui concerne la Bretagne Nord en 1955. On voit que, alors là, on est dans les enfants qui ont moins de 14 ans, ne sont que 5,5% à boire de l'eau le midi quand ils rentrent chez eux. C'est-à-dire que tous les autres boivent de l'alcool, alors pas forcément de l'eau de vie et pas forcément des litres, mais ça peut être du cidre, ça peut être du vin coupé d'eau ou du cidre coupé d'eau. Donc 1956, c'est vraiment un moment essentiel. Interdiction de donner à boire des boissons alcoolisées à boire à des enfants de moins de 14 ans. C'est lié à un homme politique, en fait, qui s'appelle Pierre Mendès France, qui, à la Tribune notamment, lui, aime à se montrer en train de boire du lait plutôt que de l'eau, ce qui fait pousser des cris d'orfraie à de nombreux analystes de l'époque, puisque boire du lait dans les années 50 alors qu'on est un homme, c'est puéril, c'est pas une boisson d'homme le lait. Alors lui, il est grand défenseur du lait, notamment parce qu'il était député de l'Eure, donc grand département d'éleveurs, et donc c'était aussi
un message politique.
Mais sa première approche, c'était avant tout budgétaire, puisqu'il avait l'intuition que l'alcoolisme en France coûtait extrêmement cher à l'État.
C'était vrai ?
Médicalement, oui, effectivement. Et c'est encore un axe d'attaque de médecins aujourd'hui. Et donc, il s'agirait de limiter, de réduire fortement encore aujourd'hui la consommation de boissons alcoolisées.
Quoi qu'il en soit, en 1960, la France est le pays où l'on consomme le plus d'alcool. Oui. Aujourd'hui, vous dites qu'elle se situe à peu près à la 20e place.
Oui, c'est-à-dire qu'en termes d'alcool pur, si on fait des moyennes, le français par an consomme autour de 12 litres d'alcool pur. On a des pays qui nous dépassent allègrement, comme la Russie, plus de 13. Hein. Mais on est devant certains pays qui ont pourtant mauvaise presse, de manière un peu caricaturale, comme la Pologne. Voilà. En revanche, on n'est pas dans les mêmes dynamiques. En Russie, ça ne cesse de croître. En Pologne, ça cesse de croître. En France, ça ne cesse de diminuer.
Attends, moi, je sais boire. C'est pas comme Michel. Lui, il a l'alcool mauvais.
Non, bon, ça va. Hein. Je connais mes limites. Hein. Je contrôle, contrairement à Marc.
Moi ? Non, mais Benoît, ah bah, lui, il boit vraiment trop. Ah. Tu l'as vu en soirée ?
Ah ouais. Moi, je bois pas tous les jours. C'est pas comme Bernard.
Non. Entre nous, ce qui est un vrai
problème. Vous avez parlé du lait et de la consommation qu'en faisait Mendès France. Mmh. Une petite révolution s'opère aussi dans les années 70 avec une nouvelle technique de conservation du lait à ultra haute température, le fameux UHT. Lait UHT.
Effectivement, alors qui permet de conserver le lait 3 mois. Autour de 3 mois. Alors là, on fait chauffer le lait à 140, 150 degrés, ce qui permet de le conserver, ce qui lui ôte une partie du goût. Hein. Mais c'est aujourd'hui le lait UHT, c'est le lait de tout le monde. Hein. Parallèlement, se créent des révolutions en termes de contenants avec la brique qui est créée. Et puis, c'est aussi le grand moment des centres commerciaux.
De la
grande distribution et de rayonnage entier de lait. Ça devient d'ailleurs un fleuron de l'économie française.
Avec les problèmes que l'on connaît.
Aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut dire, selon vous, que le vin considéré finalement comme une sorte de médicament ou comme un produit sain et bon pour la santé a été dépassé par les jus de fruits ? On en consomme beaucoup aujourd'hui en France.
Oui, vous avez raison. Et on vante surtout les vitamines, en fait, qui sont contenues dans les jus de fruits. Alors, le grand succès des jus de fruits, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Hein, et ça vient d'Amérique, en fait, hein, avec les jus d'orange, jus de pamplemousse, etc. Et aujourd'hui, jus de tout. Mais vous avez raison, c'est une bonne réflexion. Et on retrouve encore ce dénominateur commun. Pour qu'une boisson puisse remporter un grand succès, il faut qu'elle puisse s'appuyer sur un discours sanitaire valorisateur. Et aujourd'hui, donc, c'est le cas pour les jus de fruits. Et c'est le cas aussi pour l'eau, qui est vue comme la boisson la plus pure, la plus parfaite, l'eau minérale, qui remporte un grand succès depuis les années 1960 chez nous.
Pour terminer ces entretiens, Mathieu Lecoutre, un mot sur la manière de boire, la façon dont on consomme. On parle beaucoup d'apéro, il y a une sociabilisation très importante qu'on n'a pas soulignée tout au long de ces émissions, mais c'est quasiment une des fonctions principales aussi de la boisson, notamment du vin. Aujourd'hui, on voit apparaître de nouvelles manières de consommer l'alcool notamment. Vous parlez de ce phénomène qu'est le bridge drinking, c'est pas facile à dire, surtout qui touche les jeunes et qui consiste, pour être poli, à se saouler le plus rapidement possible.
Oui, donc binge drinking ou biture express, si on essaie
c'est plus facile
voilà.
Prononcer.
Si on quantifie, c'est la consommation d'au moins 5 verres dans un laps de temps relativement court. Voilà, donc vous avez raison, hein. Le but n'est pas de déguster, le but c'est de boire en excès pour s'enivrer le plus rapidement possible. Mot anglais, expression anglaise binge drinking, parce que ça vient de l'Angleterre et des États-Unis, c'est une conséquence de la mondialisation, hein, qui concerne une partie de notre jeunesse. Alors, on a des chiffres contradictoires, mais on pense que un cinquième, un sixième des jeunes Français entre 15 et 25 ans, hein, sont adeptes plus ou moins régulièrement de cette manière de consommer. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a reçu des chiffres très récents là sur 2017 qui montrent que le binge drinking reste à un niveau élevé, mais semble-t-il est en train de diminuer lentement chez nous. Ce qui est plutôt encourageant par rapport à tout le discours médical qui s'oppose à ce binge drinking.
Ça fait quand même des ravages. Hein.
Ça fait effectivement des ravages. Alors après, il faut toujours se méfier, et les historiens se méfient toujours des sources. Il ne s'agit pas de nier l'existence de binge drinking, qui est une véritable réalité, mais il ne faut pas confondre la médiatisation du binge drinking avec la naissance, la réalité de ce binge drinking. Parce que la manière de boire très rapide, avec un objectif non pas de déguster, mais de s'enivrer...
C'est vieux comme le monde.
C'est vieux comme l'Antiquité.
C'est vieux
peut-être.
Comme le vin.
Ouais, c'est et en tout cas c'est une hypothèse. Ça permet de réfléchir. On peut se demander en quelle mesure il ne s'agit pas en partie. Enfin, ce qui choque ne serait-il pas l'idée qu'on a une société française qui est vieillissante depuis les années 60, habituée par une nouvelle culture à déguster plutôt qu'à boire en excès, hein, à déguster, qui semble moins comprendre la manière de vivre de nos adolescents qui en fait, sont en opposition peut-être temporaire avec un ordre établi, ce qui est la définition même de l'adolescence, affaire à suivre en fait. Il s'agit de voir, en revanche, si une fois devenus adultes, ils continueront cette manière de consommer.
Sachant que la consommation d'alcool, dit-on, ça s'éduque, notamment à travers l'œnologie qui est apparue dans au XXe siècle.
Ah, c'est tout à fait récent, hein, c'est vrai, hein, c'est 1955. Enfin, si on prend une date, naissance de l'œnologie, c'est à Bordeaux, Émile Pénaud, œnologue, qui crée l'œnologie moderne. Ça, c'est très récent. Alors, dans certains territoires voisins, comme au Luxembourg, il y a une action gouvernementale qui est à suivre aussi, c'est essayer de lutter contre cette alcoolisation excessive rapide par des cours d'œnologie. C'est-à-dire à la compréhension de ce qu'on boit et surtout au goût et à la qualité, permettrait peut-être d'éviter de s'enivrer.
Un très grand merci Mathieu Lecoutre de nous avoir fait découvrir donc cette histoire des boissons en France, la fin de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le goût de l'ivresse, boire en France depuis le Moyen-Âge ». C'est paru chez Belin. Encore un très grand merci.
Merci beaucoup.